BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu tous les ans le 1er décembre, je vous propose d'entendre le témoignage vibrant de Jeanne Gapiya Niyonzima, burundaise, à la tête de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida. Et puis en seconde partie, nous avons rendez-vous au Togo pour voir comment se soignent les cancers chez les enfants. C'est Constance Fischer au micro, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé. Elle se considère comme une rescapée du VIH. Voilà 33 ans que Jeanne Gapiya Niyonzima vit avec le virus de l'immunodéficience humaine. D'autres dans son entourage n'ont pas eu cette chance. En 1988, alors qu'elle est enceinte d'un second enfant, un médecin lui annonce que son premier bébé est séropositif et qu'elle l'est probablement aussi. Il lui enjoint alors d'interrompre sa grossesse, ce qu'elle fait. Son premier enfant dépisté meurt à 18 mois. En 1989, le sida emporte également son mari. Mais l'hécatombe ne s'arrête pas là. Jeanne Gapiya Niyonzima perdra aussi une sœur et un frère à cause de la maladie. En 1993, elle se soumet elle-même à un test de dépistage et les résultats confirment sa séropositivité. Et l'année suivante, elle devient la première Burundaise à annoncer qu'elle est séropositive publiquement. Voici comment.
J'ai été en effet la première personne à parler de mon statut sérologique et pas n'importe où parce que je l'ai fait à l'église. Pour ceux qui connaissent le Burundi, c'était à la cathédrale Regina Mundi. C'était le 1er décembre 1994, lors de la Journée internationale de lutte contre le sida. Alors que j'étais allée prier pour les miens, morts par la suite du sida, le prêtre déclara que les morts du sida ont eu la punition divine. Cette condamnation pour moi était injuste, particulièrement pour mon bébé qui venait de mourir. Je me suis arrangée pour aller devant et dire ma révolte. Depuis, je ne me suis plus arrêtée de me battre contre la discrimination et la stigmatisation.
En 1993, Jeanne Gapiya Niyonzima fonde l'ANSS, l'Association nationale de soutien aux séropositifs et aux malades du sida. Elle se bat depuis sans relâche pour que les malades du sida dans son pays et au-delà, et en particulier les jeunes et les enfants, ne soient pas stigmatisés et discriminés. Outre l'expérience qu'elle vient de raconter et ses infortunes personnelles, la jeune femme a en effet traversé une autre épreuve marquante. Écoutez.
Je n'oublierai jamais un homme qui m'a vu à la télé témoigner. Il s'est présenté à l'aéroport et m'a suivi. Il m'a demandé si c'était moi qui avais témoigné la veille et je lui ai répondu que oui. Il me dit avec beaucoup d'assurance, malgré le fait que vous êtes infecté, je suis prêt à vous épouser. Et je l'ai regardé et je lui ai répondu sèchement que moi non. Parce qu'en fait, cet homme pensait me faire une faveur. Sans que j'aie un mot à dire, juste parce que je suis infectée, je n'avais pas le droit de choisir l'homme que je voudrais me marier avec. J'ai eu la chance de me remarier avec un homme que j'aime beaucoup et qui m'aime aussi. Nous venons de fêter nos 20 ans de mariage. Ces 20 ans, ce n'est pas que le nombre, mais c'est vraiment la qualité de vie que nous vivons. Parce que justement, on ne s'est pas marié parce qu'on est infecté. On s'est marié parce qu'on s'aime. Et depuis, beaucoup d'autres personnes infectées se sont mariées. Et je crois que c'est un autre défi qu'on a relevé. Parce qu'avant d'être infecté, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes qui ont un cœur, qui ont de l'amour à donner et à recevoir. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent.
L'autre grand combat que mène Jeanne Gapillani-Yonzima avec son association, c'est celui de l'accès universel aux traitements et aux soins. Pour ce faire, la NSS est présente à Bujumbura, mais aussi dans d'autres provinces du Burundi, et mène des activités de prévention, de dépistage, de suivi médical, notamment pour les femmes enceintes. Elle conseille également les malades sur des aspects juridiques et leur fournit un appui psychosocial essentiel. Rendre tout cela abordable pour tous, même les plus vulnérables, le combat a été de longue haleine, mais il a porté ses fruits.
Lorsque je me rappelle les prix du traitement, qui était à 1 000 $ en traitement pour un mois, et je me disais, c'est impossible, nous ne pourrons jamais avoir ces traitements. Bien évidemment, nous nous sommes battus, les activistes du Nord, eux, ils pouvaient avoir ces traitements, mais ils se sont battus à nos côtés pour que en Afrique aussi, on ne continue pas à mourir rien que parce qu'on a le seul péché d'être né dans des pays pauvres. Au Burundi, la NSS a joué un grand rôle parce que nous avons été les premiers à mettre sous traitement les personnes vivant avec le VIH et à faire le plaidoyer même pour que le pays puisse accéder au financement du Fonds mondial, et d'où le résultat. Donc c'est pour dire à quel point, quand on voit ça, on se dit, c'est vrai, c'était pas facile, mais le combat que nous avons mené, ça en valait la peine.
Le témoignage de Jeanne Gapillani-Yonzima, présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi. Rappelons pour finir que sur les 37,9 millions de personnes vivant avec le VIH fin 2018, 79% ont subi un test de dépistage, 62% ont reçu un traitement et 53% ont réussi à supprimer le virus, éliminant par là même le risque de le transmettre.
Vous écoutez la DW.
Vous écoutez le magazine Santé sur les ondes de la Deutsche Welle. Ce sont des affections malignes qui surviennent généralement chez l'enfant avant l'âge de 15 ans. Les cancers pédiatriques ou de l'enfant, bien que peu fréquents, ne ressemblent pas à ceux de l'adulte. Ils constituent néanmoins une cause majeure de décès chez les enfants et les adolescents. Notamment dans les pays à faible revenu où la prise en charge est difficile par manque d'équipement et surtout de médicaments qui sont une fois de plus coûteux. Au Togo, c'est une unité spécialisée qui s'occupe de ces jeunes patients atteints de cancer grâce à divers traitements, notamment la chimiothérapie. Le reportage d'Elodie Amen à Lomé.
Je fais la troisième. J'ai une tumeur, voilà, au ventre et je suis ici depuis quelques mois pour suivre le traitement du cancer.
Tout comme la jeune Alexandra, ils sont nombreux ici au centre d'hémato-oncologie du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé à lutter contre le cancer. Une maladie provoquée par la prolifération anarchique des cellules dans l'organisme humain qui finissent par former une masse cellulaire appelée tumeur maligne. Les patients du centre sont des enfants de moins de 18 ans. Admis depuis 2 mois, Serge souffre d'un cancer des muscles. Sa jambe gauche est 2 fois plus grosse que la droite.
C'est une tumeur qui m'est arrivée et nous sommes venus à l'hôpital pour venir voir vraiment c'est quoi. Arrivé ici à l'hôpital, on nous a demandé des analyses et tout et tout.
Ça a commencé comment?
Ça a commencé juste avec de la fièvre et j'ai ressenti comme si une cuisse était plus grosse que l'autre.
Plusieurs types de cancers sont pris en charge par ce centre. Docteur Jules Guédénon, pédiatre, cancérologue.
Les cancers que nous recevons le plus ici sont en premier le cancer du rein de l'enfant. C'est un cancer que l'on va retrouver à partir d'une constatation de la mère qui voit que le ventre de son enfant gonfle d'un côté et touche parfois même comme une boule qui est dans le ventre. Ça va être chez des enfants qui ont autour de l'âge de 3 ans. Deuxième type, c'est le lymphome de Burkitt. C'est un cancer qui va toucher les mâchoires et qui va déformer le visage de l'enfant. Troisième type de cancer, c'est le cancer du sang. Ce dernier va se manifester par un enfant qui va être anormalement fatigué. On aura ce qu'on appelle le syndrome d'insuffisance médulaire, c'est-à-dire que la moelle qui fabrique le sang ne peut plus fabriquer correctement le sang. Quatrième type de cancer que nous recevons, le lymphome de Hodgkin. C'est un cancer qui touche les ganglions. Et donc, ça peut être un enfant qui a une boule qui grossit dans le cou, qui grossit. Ça peut être dans la poitrine aussi. Le cinquième type de cancer, c'est le rétinoblaste, qui est un cancer qui touche l'œil. Dès qu'on voit une petite tache blanche dans les yeux, un peu comme l'œil de chat, il faut courir à l'hôpital. Et après ça, tous les autres types de cancers, on les a ici. Les cancers des muscles, on a les cancers des os. Les tumeurs germinales qui sont des cancers qui vont toucher plus vers les organes génitaux et autres.
Pour lutter contre un cancer, la stratégie thérapeutique de base, c'est la chimio ou encore le traitement par les médicaments. En fonction des tumeurs, d'autres moyens sont également utilisés, comme la radiothérapie ou encore la chirurgie. Le cancer est une maladie curable lorsqu'il est pris en charge très tôt. Lilia, 6 ans, est aujourd'hui une enfant en bonne santé, du moins cliniquement. Il y a plus d'un an, elle a souffert du cancer des os. Sa mère raconte.
Ça a commencé avec des douleurs musculaires, des maux de tête, des maux de ventre. On pensait à du paludisme. On a traité, ensuite on a traité les vers et autres. Ça n'a rien donné. C'est un hématologue qui nous avait dirigé vers l'hôpital. Au fait, c'est un neuroblastome. C'est un cancer osseux. Ça se manifeste avec des douleurs un peu partout dans le corps. En tout cas, c'est avec elle, c'est comme ça que cela s'est manifesté. Elle a mal partout dans le corps. C'est allé jusqu'à à un moment, elle n'arrivait plus à marcher. C'est à la première chimiothérapie qu'elle a commencé par marcher. On a fait 11 mois à l'hôpital.
Chaque année, de nombreux cas de cancer sont enregistrés par ce centre. Docteur Jules Guédénon.
Aujourd'hui, nous avons plus de 60 cas par an. On a déjà traité plus de 400 enfants depuis que l'unité existe, dit depuis 2008 par là. Donc nous avons beaucoup de décès encore parce que tous ceux qui arrivent à des stades avancés, on arrive à mettre certains en rémission partielle.
Le centre d'hémato-oncologie du CHU Sylvanus Olympio bénéficie de l'aide de partenaires financiers pour la fourniture des médicaments et de l'appui du gouvernement pour la mise en place d'un hôpital de jour pour ces jeunes patients. Elodie Amène à Lomé pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de cette édition, mais vous pouvez retrouver en quelques clics le podcast de cette émission sur notre site internet dw.com/français. Restez en bonne santé et à l'écoute de la DW.